Sélection de lettres de la princesse Palatine, tirée du livre Correspondance complète de Madame, duchesse d'Orléans, née princesse Palatine, mère du régent. Traduction par Monsieur Brunet. Paris, 29 octobre 1715. La fausseté m'est insupportable. Je la trouve ici et dans tous les coins. Cela me rend la vie à charge. J'ai appris aujourd'hui des choses qui me rendent toute triste. Vous n'en seriez pas surprise si vous connaissiez les détails. Mais ils ne peuvent s'écrire par la poste. Il y a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête à une personne honnête comme vous. novembre 1715. Madame de Maintenon est à Saint-Cyr dans l'établissement qu'elle a fondé. Elle n'était point la maîtresse du roi. Elle était beaucoup plus. Elle a été gouvernante des enfants de Madame de Montespan et elle a ensuite mis le pied dans ses salons. Mais elle est allée bien plus loin. Le diable dans l'enfer ne peut être pire qu'elle n'a été. Son ambition a jeté toute la France dans le malheur. La Fontange était une bonne personne. Je la connaissais bien. Elle a été une de mes filles d'honneur. Elle était belle des pieds jusqu'à la tête. Mais elle avait peu de jugement. Janvier 1716. La seconde fille de Madame d'Orléans est bien élevée et n'est point laide. Elle persiste fermement dans sa résolution d'être religieuse. Il me semble cependant qu'elle n'en a guère la vocation. Je fais mon possible pour la détourner de ce projet, mais elle a toujours cette folie en tête. Elle a de très jolies mains et elle a naturellement un teint rose et blanc. Paris, 4 janvier 1716. Madame d'Orléans a eu 6 filles. La première est morte à l'âge de 2 ans. La seconde est la duchesse de Berry. La troisième est âgée de 17 ans. On l'appelle Mademoiselle de Chartres. C'est elle qui doit être religieuse. Et pour la figure comme pour la taille, c'est la plus jolie de toutes. La quatrième se nomme Mademoiselle de Valois. Elle a 15 ans accomplis au mois d'octobre. Puis vient le duc de Chartres, qui, au mois d'août, a eu 12 ans. La cinquième, Mademoiselle de Montpensier, qui est dans un couvent à Beauvais, a eu 6 ans le 11 de ce mois. Nous avons enfin Mademoiselle de Beaujolais, qui a 1 an. Et la duchesse d'Orléans est encore enceinte. On n'a jamais pensé à marier Mademoiselle de Chartres au chevalier de Saint-Georges. Il est vrai que le bruit en a couru. Mais les gens que la chose intéresse n'en ont pas eu l'idée. Paris, 6 janvier 1716. Madame d'Orléans ne s'inquiète pas de ses enfants. Je les laisse se quereller et s'arranger comme ils voudront. Tout cela s'est fait sans mon approbation. Ils se débrouillent comme ils voudront. Je suis persuadée que toutes les incommodités et les faiblesses de Madame d'Orléans viennent de ce qu'elle est toujours au lit ou sur sa chaise longue. Elle mange et boit couchée. C'est chez elle pure paresse. De là vient que nous ne pouvons manger ensemble. Depuis la mort du roi, elle ne m'a pas parlé. Paris, 7 janvier 1716. Madame de Berry est rouge. Lorsqu'elle veut plaire, il faut qu'elle parle, car elle parle bien. Elle a une éloquence naturelle. Elle a toujours auprès d'elle des gens qui la trompent. Je ne lui dis plus rien. Elle a de l'esprit, mais elle a été fort mal élevée. Je ne la regarde plus comme un de mes petits-enfants. Elle reste de son côté, Je ne m'occupe pas d'elle et elle ne s'occupe pas de moi. janvier 1716. Il n'y a jamais eu de frères plus différents que feu le roi et monsieur. Cependant, ils s'aimaient beaucoup. Le roi était grand et cendré ou d'un brun clair. Il avait l'air mâle et extrêmement bonne mine. Monsieur n'avait pas l'air désagréable, mais il était fort petit. Il avait les cheveux noirs comme du jais, les sourcils épais et bruns, de grands yeux bruns, un visage fort long et assez étroit, un gros nez, une très petite bouche et de vilaines dents. Il avait des manières d'une femme plutôt que d'un homme. Il n'aimait ni les chevaux ni la chasse. Il ne se plaisait qu'à jouer, tenir un cercle, bien manger, danser et faire sa toilette. En un mot, il se plaisait à tout ce qu'aiment les dames. Le roi aimait la chasse, la musique, le spectacle. Monsieur n'aimait que les grandes assemblées et les bals masqués. Le roi aimait à être galant avec les dames. Je ne crois pas que, de sa vie, monsieur ait été amoureux. janvier 1716. Madame la duchesse de Bourbon a appris de sa mère et de sa tante à tourner les gens ridicules. Elle ne faisait pas autre chose. Tout le monde était l'objet de leur raillerie, et cela sous prétexte d'amuser le roi. Les enfants, qui étaient toujours là, n'ont pas su ni entendu autre chose. C'était un rude tribunal, mais il n'était pas aussi dangereux que celui de la gouvernante des enfants, Madame de Maintenon, car celle-ci y allait très sérieusement et sans projet de divertir. Et l'on disait au roi toutes sortes de mal de tout le monde, sous prétexte de dévotion et de charité, afin de corriger le prochain. De cette façon, on donnait au roi mauvaise opinion de toute la cour. La vieille empêchait ainsi le roi de prendre du goût pour quelqu'un et d'aimer à se trouver avec tout autre qu'avec elle et ses créatures. C'étaient les seules gens parfaites et exemptes de tous les faux. C'était d'autant plus périlleux que, d'ordinaire, des lettres de cachet, envoyant en prison ou en exil, suivaient ses dénonciations, ce que Madame de Montespan n'avait jamais fait. Lorsqu'elle avait ri de quelqu'un, elle était contente et en restait là. Paris, 26 janvier 1716. Madame la duchesse de Bourbon a trois filles charmantes. L'une d'elles, Mademoiselle de Clermont, est fort belle. Mais je trouve sa sœur, la princesse de Conti, bien plus agréable. La mère n'a pas plus de beauté que ses filles, mais elle a plus de grâce, meilleure mine et des façons plus engageantes. L'esprit étincelle dans ses yeux, ainsi que la malice. Je dis toujours qu'elle ressemble à un joli chat qui, tout en jouant, fait sentir ses griffes. Elle se moque de tout le monde, elle est fort amusante et elle tourne tout en ridicule d'une manière si plaisante qu'on ne peut s'empêcher de rire. Elle est de bonne compagnie, toujours gaie, et elle a de fort jolies saillies. Elle est fort insinuante, et quand elle veut plaire à quelqu'un, elle peut prendre toutes les formes. De sa vie, elle n'a eu un moment de mauvaise humeur. Et si elle n'était pas fausse, comme elle l'est en effet, il n'y aurait pas de personne plus agréable. Elle sait se plier à l'humeur de chacun. Et l'on pourrait croire qu'elle a une véritable sympathie pour les gens à qui elle en témoigne. Mais il ne faut pas du tout se fier à elle. mai 1716. La reine d'Espagne est restée plus longtemps chez Madame sa mère que notre dauphine. Aussi a-t-elle été beaucoup mieux élevée. Là maintenant, ne s'entendait guère à l'éducation. Pour gagner l'affection de la jeune dauphine et pour en être aimée toute seule, elle lui laissa faire toutes ses volontés. Cette jeune personne avait été bien élevée par sa vertueuse mère. Elle était gentille et drôle, et la plaisanterie lui allait bien. Elle n'était pas laide quand elle avait de belles couleurs. On ne saurait dire quelle folle tête brûlée entourait cette princesse. Par exemple, la maréchale d'Estrées. La maintenon a été mal payée de lui avoir donné ces animaux insensés, car il en est résulté que Madame la Dauphine n'a plus aimé sa société. Cependant, la maintenon, voulant en connaître la cause, tourmenta la princesse pour qu'elle le lui avoue. À la fin, la dauphine lui dit que la maréchale d'Estrées lui répétait journellement « Ne soyez qu'avec des gens qui vous divertissent mieux que cette vieille carcasse » et qu'elle y disait d'elle beaucoup de mal. La maintenon m'a raconté cela elle-même depuis la mort de la dauphine pour prouver que c'était uniquement la faute de cette drôlesse si la dauphine avait si mal vécu avec moi. Cela peut être à moitié vrai, mais il n'en est pas moins certain que la vieille vilaine l'avait excitée contre moi. Presque toutes les jeunes folles qui entouraient la dauphine étaient des parentes ou des alliées de la vieille. C'est par ordre de celle-ci qu'elle cherchait à divertir et à amuser la princesse, pour qu'elle n'eût pas d'autre société que la leur, et qu'elle s'ennuyât partout ailleurs. Juin 1716. Madame d'Orléans paraît plus vieille qu'elle n'est, car elle met beaucoup de rouge et elle a le nez et les joues pendantes. Il lui est resté de sa petite vérole qu'elle branle la tête comme une vieille femme. Elle est tellement paresseuse qu'elle ne saurait faire deux pas. Elle voudrait que les alouettes lui tombassent toutes rôties dans la bouche. Et comme nous ne sommes pas dans le pays du cocagne, cela n'arrive pas. Elle voudrait bien gouverner, mais elle ne comprend pas la véritable hauteur. Elle a été trop mal élevée pour cela. Elle sait vivre comme une simple duchesse, mais non comme une petite fille de France. août 1716. On ne saurait mieux danser avec plus de grâce que Madame la Duchesse de Bourbon et ses filles. Mais la mère danse encore mieux que les filles. Dans cette maison, la malice passe pour de l'esprit. Les trois sœurs, Madame la Duchesse, Madame d'Orléans et la Princesse de Conti, sont toutes trois comme si elles n'étaient pas sœurs. Il n'y a entre elles ni attachement ni confiance réciproque. Elles vivent entre elles sur un pied de cérémonie, comme des personnes étrangères. août 1716. La vieille guenipe ne manque pas de capacité. Elle parle fort bien quand elle veut. Elle n'aimait pas qu'on lui donnât le titre de marquise. Elle voulait qu'on l'appelât Madame de Maintenon, tout court. Elle a montré de toutes les façons la haine qu'elle avait contre moi. Par exemple, quand la reine d'Angleterre allait à Marly et qu'elle faisait des promenades à pied ou en voiture avec le roi, lorsqu'on revenait, la reine et la princesse d'Angleterre, Madame la Dauphine et les princesses allaient avec le roi. Et j'étais la seule qu'on renvoya. août 1716. La seconde dauphine était délicate et même malingre. Le docteur Chirac assura jusqu'à la fin qu'elle guérirait. Et en effet, si on ne l'avait laissée se lever pendant qu'elle avait la rougeole et qu'elle était en sueur, et si on ne l'avait saignée du pied, elle vivrait encore. Immédiatement après la saignée, au lieu de rouge comme du feu, elle devint pâle comme une morte. Et se trouva extrêmement mal. Quand on la fit sortir du lit, je m'écriai qu'il fallait au moins attendre que la sueur fût passée pour la faire saigner. Chirac et Fagon s'obstinèrent et se moquèrent de moi. La vieille guenipe vint à moi et me dit « Voulez-vous être plus habile que tous ces docteurs qui sont là ?» Je répondis « Non, madame, mais il ne faut pas être fort habile pour savoir qu'il faut suivre la nature. » et puisqu'elle inclina la sueur, il serait bien mieux de suivre cette voie que de faire lever une malade en transpiration pour la faire saigner. Elle haussa les épaules et sourit ironiquement. J'allais de l'autre côté, je ne dis plus un seul mot. September 1716. La guenipe n'a jamais pu pardonner au roi de ne l'avoir pas déclarée reine. Elle s'est donnée devant le roi d'Angleterre pour tellement pieuse et humble que la reine la prenait pour une sainte. La vieille guenipe sait bien que je suis une Allemande qui n'a pu de sa vie souffrir une mésalliance, et elle s'est figurée que c'était à cause de moi que le roi ne voulait pas déclarer son mariage. De là vient la haine qu'elle me porte. Tant que la reine a vécu, elle ne m'a point haï. Depuis la mort du roi et depuis que nous avons quitté Versailles, mon fils n'a pas vu la guenipe un seul instant. September 1716. La vieille guenipe n'a jamais permis que je me mêlasse de quoi que ce fût, car elle ne voulait pas que j'eusse des motifs de causer avec le roi. Ce n'était pas une jalousie due à de l'amour, mais elle savait que je parle toujours avec sincérité et que je ne sais pas mettre un lien à ma bouche. Elle craignait que je ne voulusse ouvrir les yeux du roi et lui montrer la conduite désordonnée de la dame. Ce n'était pas mon intention. September 1716. Les maîtresses du feu roi n'ont pas terni sa gloire autant que sa vieille guenipe qui l'avait épousée. Elle a attiré sur toute la France les plus grands malheurs. Elle a occasionné la persécution des réformés. Elle a fait renchérir les grains et elle a causé la famine. Elle a aidé les ministres à voler le roi. Elle est coupable de la mort du roi à cause de tous les tracas qu'elle lui a donnés avec la Constitution. Elle a fait le mariage de mon fils et a voulu mettre les bâtards sur le trône. En somme, elle a tout ruiné et mis en confusion. Le roi aussi a souvent été mal servi par ses ministres. September 1716. La fausseté passe ici pour de l'habileté et la franchise pour de la niaiserie. Je ne suis ni rusée ni adroite et j'ai souvent entendu dire « Vous êtes trop d'une pièce ». September 1716. Je vous dirai franchement pourquoi je ne veux me mêler de rien. Je suis vieille. J'ai besoin de me reposer et ne me soucie point de me tourmenter. Je ne veux point entreprendre ce que je ne serai pas en mesure de mener à bien. Je n'ai point appris à gouverner. Je n'entends rien à la politique ni aux affaires de l'État. Et je suis beaucoup trop âgée pour apprendre des choses aussi difficiles. Mon fils a, grâce à Dieu, assez de capacité pour mener les choses sans moi. D'ailleurs, j'exciterais trop la jalousie de sa femme et de sa fille aînée, qu'il aime mieux que moi. Il en résulterait des querelles perpétuelles, et c'est ce qui ne me convient nullement. On m'a bien tourmentée, mais j'ai tenu ferme. J'ai dit que je voulais donner un bon exemple à la femme et à la fille de mon fils. Ce royaume a, pour son malheur, était trop gouverné par des femmes, jeunes ou vieilles. Il est temps qu'on laisse les hommes mener les affaires. J'ai donc pris le parti de ne me mêler de rien. En Angleterre, les femmes peuvent régner, mais en France, pour que les choses aillent bien, il faut que les hommes seuls gouvernent. Quel avantage y aurait-il pour moi à me tourmenter nuit et jour? Je ne demande que la paix et le repos. Tous les miens sont morts. Pour qui irais-je me mettre en peine? Ma vie est presque terminée. Il m'en reste seulement assez pour pouvoir m'apprêter à mourir tranquille. Et il est difficile dans les grandes affaires publiques de conserver une conscience paisible. « 24 septembre 1716. Je suis née à Heidelberg au mois de septembre 1652. Lorsque je peux, par ma recommandation, aider de pauvres gens auprès des conseils qui décident ici les affaires, je m'y emploie de tout cœur. Si cela réussit, j'en suis bien aise. Sinon, je pense que telle était la volonté de Dieu, et je suis contente. »